Monaco s'engage en faveur de la transition énergétique. Vous aussi, vous souhaitez agir au quotidien pour la planète. Découvrons l'action quotidienne d'un nouveau signataire du pacte pour la transition énergétique.
Alors je suis Louis Stark, je suis le directeur général de l'hôtel Hermitage Monte Carlo et nous nous trouvons donc Square Beaumarchais aujourd'hui où j'ai le plaisir de vous accueillir.
Est-ce qu'on peut donner en quelques mots une définition de ce palace par rapport aux autres établissements de la SBM ?
Alors la caractéristique de l'hôtel Hermitage, c'est que c'est une vieille dame, qu'elle a toujours été maintenue, aménagée, améliorée, qu'on a fait des rénovations, mais on a toujours gardé l'esprit de la vieille dame. Donc depuis 1893 et la première pierre, l'esprit de la construction a été respectueux de l'identité, d'un code couleur, d'une certaine douceur de vivre. Et on est fiers en fait d'être un petit peu en retrait de la place du casino, d'être un endroit où les gens viennent se cacher et profiter d'un séjour peut-être plus discret, mais certainement plus relaxant.
Quel a été le facteur déclenchant qui vous a incité à signer le pacte pour la transition énergétique ?
Alors, on l'a signé en tant que société. Monte Carlo Société des Bains de Mer, au travers de Jean-Luc Biamonti, a été un des premiers signataires du pacte. C'est une démarche qu'on veut mettre en place dans tous nos hôtels et dans tous nos points de vente, et on est soucieux de ça. C'est à la fois une cause qui est soutenue au niveau national en principauté, et puis c'est aussi pour les générations qui viennent quelque chose d'essentiel. Donc on se doit de prendre nos responsabilités en commençant, en améliorant et en mettant des pratiques qui vont devenir l'habitude de nos industries. Et c'était essentiel pour nous de s'inscrire dans cette démarche-là.
Avant d'entrer dans le détail des différents domaines, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez changé tout de suite à la signature de ce pacte ?
Alors, pour être absolument transparent, quand mon prédécesseur a signé le pacte, okay, puisque c'est Sergio Mangini qui était l'ancien directeur général qui l'a signé, moi j'étais au Fairmont Monte Carlo à l'époque. Je pense que ce que Sergio a mis en place immédiatement, c'est tout ce qui a trait au tri et aux économies d'énergie dans le sens électricité et dans le sens faisons attention à nos consommations au niveau de l'hôtel. C'était vraiment le premier point qu'il a mis en place et c'est l'héritage principal que j'ai trouvé quand je suis arrivé.
Donc pour rentrer dans les différents détails, qu'est-ce qui est mis en place pour les modes de déplacement ?
Alors d'abord, en préambule, de manière générale, ce qui est important également de bien comprendre, c'est que on est partenaire du pacte et on est également, dans le cadre de la démarche de la Société des Bains de Mer, certifié auprès de Green Globe et qu'on travaille sur différents domaines. Alors on va aborder les domaines de la mobilité maintenant, mais il y a un aspect un peu culturel et un petit peu préservation du patrimoine qu'on n'avait plus évoqué quand j'ai décrit l'établissement. Il y a un aspect social dans notre engagement auprès de différentes causes en principauté et dans la région qu'on peut faire au travers de notre participation à la No Finish Line, de la distribution au cours d'une maraude avec l'association MIR, de repas pour les défavorisés à Nice, de collectes qu'on met en place pour les enfants sur les jouets, de choses comme ça. Et ensuite, la mobilité vient évidemment dans notre profession avec un paramètre qui est important et qui est à la fois la première difficulté, c'est que en travaillant 24 heures sur 24 et en ayant des shifts différenciés avec des personnes qui viennent des différents endroits et de France et d'Italie et de principauté, on a beaucoup de collègues qui arrivent de manière différenciée. Donc un élément qu'on aurait voulu mettre en place et qu'on essayait de mettre en place avant le Covid, c'était le covoiturage et essayer de favoriser le covoiturage. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est un élément qui est en difficulté, on essaye de favoriser tous nos déplacements en principauté à pied ou au travers du réseau de transport en commun de la principauté en aidant nos collègues à les prendre. Et puis, on essaye également tout de même de favoriser le transport doux avec une démarche auprès de nos clients également. Donc, aujourd'hui, un client qui va rester à l'Hermitage va recevoir de la part de nos concierges l'ensemble des modes de déplacement et va être mis en avant effectivement la possibilité de se déplacer avec une voiture électrique ou hybride type Tesla. Ça fait partie du cahier des charges qui a été mis en place auprès de notre partenaire transporteur et c'est quelque chose qu'on pousse pour que nos clients puissent s'inscrire dedans. On a des bornes de recharge électrique qui ont été mises en place dans nos garages pour pouvoir aussi favoriser la venue des clients qui se déplacent sur des voitures hybrides ou électriques complètement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on offre à ses clients. Donc c'est un incentive qui peut paraître peu de chose par rapport au prix d'une suite ou d'une chambre, mais qui fait partie des éléments qu'on met en place et qu'on veut promouvoir de manière vraiment importante.
Vous m'avez parlé des déchets, qui était un sujet vraiment important pour votre prédécesseur. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer les déchets et éventuellement les réduire ?
Alors, je le vois en fait à l'aune de notre partenariat avec la société monégasque d'assainissement et avec ce qu'on met en place en termes de possibilité de tri dans l'hôtel. Alors, on trie évidemment tous les déchets en verre, on trie évidemment tous les déchets en plastique, on fait évidemment un tri différencié au niveau de nos cuisines, on pèse nos déchets pour voir quel est l'impact, par exemple, au niveau de la cantine du personnel, pour essayer de réduire les contenants, pour essayer de réduire toute la partie emballage. On essaye avec nos fournisseurs, autant que faire se peut, de travailler sur les livraisons et pour les réduire, et aussi pour réduire les emballages qui vont être sur l'impact de ces éléments-là. On collecte des choses un peu plus anecdotiques, les capsules Nespresso qui sont foison dans beaucoup de bureaux, les bouchons en plastique, les bouchons en liège, les petits électroménagers, tous les appareils électriques, les piles évidemment qu'on connaît depuis longtemps et qui font partie des choses habituelles, mais ça fait partie également de ce type de choses. Et c'est pas un déchet, mais c'est un recyclage. On parlait tout à l'heure d'action sociale. C'est important aussi qu'on essaye de donner des deuxièmes vies ou qu'on essaye de prolonger des vies à des éléments qui peuvent être dans nos foyers, au travers de nos collègues ou au travers de l'hôtel, et qu'on puisse s'en faire bénéficier des populations qui sont moins favorisées que celles qui travaillent ici ou qui résident ici.
Au point de vue optimisation énergétique, ça doit être difficile dans un établissement comme celui-ci de faire des réductions d'énergie.
Alors, il y a deux volets de la réduction d'énergie. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même un aspect culturel, patrimonial et commercial. Et il y a des endroits où on ne va pas pouvoir éteindre la lumière. Il serait une hérésie pour nous d'éteindre la lumière du jardin d'hiver et de la structure Eiffel avec la magnifique mezzanine et verrière qu'on a à cet endroit-là. Et de même, pour ceux qui connaissent l'hôtel Hermitage, quand on rentre dans le lobby et qu'on voit la salle Belle Époque allumée, on se dit que ça fait partie quand même de quelque chose qu'on a envie de voir. Maintenant, toutes nos ampoules dans l'hôtel, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sont 100% LED. Donc dans ces endroits, même si on n'a pas éteint la lumière, on s'est équipé de manière progressive, et aujourd'hui c'est définitif, on est à 100%, d'une ampoule qui va durer, qui ne va pas être remplacée, et qui économise et qui consomme aussi moins d'énergie. Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment importantes pour nous également. Après, on parle de l'électricité, ça peut passer par des méthodes de travail. Nos amis cuisiniers ont l'habitude d'allumer un piano quand ils arrivent. On n'est pas obligé de l'allumer dès le début du service. On a des salamandres ou on a des équipements qui sont sur des minuteurs et qui s'arrêtent au bout d'un certain temps si on ne s'en sert pas. Donc on essaye de travailler sur ce genre de choses. Évidemment, on est aidé aussi par la SMEG. On travaille sur le programme Smart et on essaye au niveau groupe de ne pas se contenter que de l'électricité, mais travailler aussi sur les autres fluides, en particulier l'eau, qui est un élément important dans un hôtel. Donc d'abord, on essaye d'impliquer nos clients à nous aider en leur demandant de participer à un programme de nettoyage un jour sur deux, ou même plus s'ils le veulent, des linges qu'ils utilisent dans leur chambre. On travaille également sur des mitigeurs d'eau dans beaucoup de salles de bain et dans beaucoup de lieux publics au niveau de nos toilettes pour pouvoir diviser de manière substantielle la consommation d'eau de ce côté-là. La même attention est donnée au niveau des process dans les cuisines. Toute la partie arrosage de nos jardins est aussi traitée par un recyclage. Donc on essaye d'utiliser de l'eau recyclée pour cette partie-là. Et puis sur la climatisation qui implique à la fois de l'eau et à la fois de l'électricité, on avait la chance d'avoir un choix technique qui avait été fait par Monte Carlo Société des Bains de Mer il y a très longtemps, d'utiliser des stations de pompage qui sont en mer. Et en fait, on n'a pas de tour aérobie sur aucun de nos hôtels, en tout cas pas sur l'Hermitage. Et tout le système de climatisation de la société se fait au travers d'une boucle d'eau fermée qui est puisée en mer et qui nous permet d'économiser en énergie et qui nous permet également d'éviter des rejets dans l'atmosphère qui pourraient être potentiellement dangereux. Et puis c'est un problème d'entretien avec les légionelloses et ce genre de choses. Ça nous permet de les éviter.
Une autre prise de conscience écologique, vous m'avez parlé de cet engagement sociétal en faisant bénéficier des associations de votre aide.
Alors, la dernière en date, pas plus tard que ce mois-ci, au tout début du mois de décembre, on s'est rendu à Nice supporter l'association MIR. Alors, supporter l'association MIR, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réalise un repas pour 250 personnes qu'on va distribuer au cours de deux maraudes. Une maraude qui se trouve derrière la piscine olympique Jean Bouin au centre-ville de Nice, et puis une deuxième dans le quartier de la Libération au niveau de la ville Yatiol, où on a également une deuxième distribution à cet endroit-là. Il est certain qu'on touche des populations qui sont très défavorisées et qui sont dans un besoin immense. On l'a fait au début du mois et on était surpris et on était triste de voir des familles avec des enfants, des gens qui sont vraiment démunis, qui manquent de beaucoup de choses. Donc c'est un engagement important. Après, on essaye aussi de motiver nos équipes sur des engagements sportifs ou des engagements challenging pour qu'il y ait à la fois cet engagement auprès de la société, mais qu'on puisse aussi collecter de l'argent en abondant ou en participant à des challenges qui vont générer des systèmes de donation pour des causes telles que la No Finish Line. Et ça, c'est aussi vraiment important parce que ça nous permet de restituer une forme d'énergie à des sociétés ou à des associations locales. Et dans notre engagement, on est plus sur de l'engagement local et régional que d'essayer d'exporter cette générosité ou cet engagement dans des pays où on va avoir moins de vision et un impact moins direct et qui ne sera pas constaté par les équipes.
Est-ce que vous auriez besoin d'assistance pour aller plus loin dans cette transition énergétique ?
Alors, besoin d'assistance, je pense pas. Je pense qu'il y a une assistance qui est forte, il y a une énergie qui est forte, il y a une envie qui est forte. Je pense que tout le monde dans son domaine et dans son endroit fait le maximum pour avancer. Il faut qu'on se coordonne beaucoup. Et la coordination, c'est toujours le challenge. Parce que on discutait avec Mire, par exemple, qui nous disait on a des gens qui veulent venir, mais il y a des moments où, à l'approche de Noël, par exemple, ils nous disent en fait, on a trop de volontaires. On n'a pas besoin de volontaires le 24 décembre parce qu'il y en a tellement que ça crée presque un désordre. Donc cette coordination, c'est de travailler de manière intelligente avec ces associations-là ou avec ces pouvoirs publics et essayer de trouver une solution pour qu'effectivement, on intervienne au bon moment et que notre énergie soit engagée à bon escient.
Est-ce que vous attendez quelque chose de spécial de la mission pour la transition énergétique ?
Écoutez, on attend le même entrain, le même dynamisme, le même partage et toujours d'être cet aiguillon qui va lancer des pistes de réflexion sur différentes thématiques et qui va aider aussi à transcender nos actions à nous et nous donner d'autres pistes de réflexion, nous donner d'autres axes d'action. Et c'est en cela que c'est intéressant d'avoir cette dynamique de ce côté-là. Et puis, on parlait de coordination tout à l'heure. Là, par contre, il y a une vraie coordination qui est faite de leur part, avec un vrai suivi, avec une véritable mise en relation des différentes institutions et des différentes autorités en principauté. Et ça, c'est vraiment l'avantage principal. Et on l'a déjà de manière très forte. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous.
Lorsque vous avez mis en place ces changements pour la transition, est-ce qu'il y a eu des freins de la part des clients, peut-être des salariés ?
Alors, les salariés sont à classer en trois catégories. On a les engagés, on a les convertis. Dans les convertis, on a les convertis de circonstances. Et puis, on a les convertis qui viennent parce que il y a à la fois la société qui les pousse. Et quand je dis la société, c'est Monte Carlo, Société des Bains de Mer. Et puis, il y a la société en général. Je suis père de 3 enfants. Mes premiers mentors en termes d'approche ont été mes enfants. C'est les premiers qui m'ont enguirlandé quand je triais mal les déchets. Eux, ils savent. Ils sont des vecteurs de propagande essentiels et ils sont super efficaces parce qu'on ne peut pas leur résister.
Les clients, eux, comment ils ont vécu ce changement ?
Alors, les clients, notre approche par rapport à la clientèle, c'est de ne pas être intrusif et de leur apporter quelque chose qui est une option qu'ils peuvent choisir. On est dans un palace, on a une clientèle qui a ses propres convictions, on ne veut pas les obliger à rentrer dans quelque chose dont ils n'auraient pas envie. Notre but et notre approche par rapport à ça, c'est où, derrière le rideau et derrière la scène, de mettre en place des choses qu'ils ne vont pas voir et qui vont s'imposer à eux, mais sans que ça ait aucun impact sur leur séjour de manière transparente pour eux, ou leur donner, dans le cadre de l'organisation de leur séjour ou du déroulé de leur séjour, des options. On parlait du transport tout à l'heure avec cette option de choisir un véhicule vert. Ça peut être un peu plus cher, mais en tout cas, lui peut s'inscrire dedans. On parlait de l'option de participer à un programme de préservation de l'eau au travers du traitement du linge. C'est aussi une démarche volontaire de leur part. On ne va pas leur imposer. Le client ne réagit pas de manière négative parce qu'il n'est forcé à rien. On a des clients qui nous disent qu'ils sont sensibles à notre démarche. On a des clients qui posent des questions parfois. Mais globalement, quand on pose la question, et on le fait au travers de questionnaires de satisfaction, par exemple, aujourd'hui, dans notre type de clientèle, on n'est pas au moment où, en tout cas ici, la décision d'un lieu de séjour va se faire sur la base d'un certain nombre de critères green qui pourraient être mis en place par un hôtel ou par un autre. C'est pas quelque chose qui est probant aujourd'hui dans le retour qui nous est fait de leur part.
J'ai une question un petit peu plus personnelle. Vous, Monsieur Stark, quel est votre éco-geste préféré ?
Mon éco-geste préféré ? Éteindre mon bureau le soir quand je pars, ça c'est un éco-geste que j'ai acquis aujourd'hui. Le deuxième éco-geste, c'est le tri, vraiment, ça fait partie des choses qui sont importantes. Vous l'avez
sous
compris, sous l'influence totale complète de mes enfants, j'avoue. L'engagement sociétal dans la démarche est important pour moi. Je pense que le fait que nous, on soit quelque part privilégiés à travailler dans des endroits comme ceux-là, si on peut rendre à la communauté autour de nous et aux gens qui sont le plus dans le besoin ou qui peuvent être supportés par des actions qu'on met en place, ça c'est quelque chose auquel je suis très sensible.
À qui pourriez-vous recommander de signer ce pacte ?
À tous les partenaires, hôteliers, restaurateurs qui sont dans la profession et qui sont en principauté, en premier. Et puis globalement, à tous les commerces, services, industries qui sont en principauté. C'est aujourd'hui, au-delà de tous les discours commerciaux et au-delà de tous les discours de posture, on voit bien, on sent bien que c'est quelque chose qui vient indispensable dans la gouvernance des entreprises de demain. Donc il faut que tout le monde le fasse.
Ben, j'en profite pour vous laisser le mot de la fin alors.
Alors le mot de la fin sera très simple. À l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, nous avons signé le pacte national pour la transition énergétique. Et vous ?
Parce que la transition énergétique et la protection de notre planète sont l'affaire de tous. Vous venez de découvrir des clés pour agir au quotidien. Présenté par la mission pour la transition énergétique du gouvernement Pressier.